vous invite à chercher dans votre Bible le livre de la Genèse, chapitre 2. On va lire quelques versets. D'abord, chapitre 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Tous les arbres sont bons, notez ici. Hein. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et chapitre 3, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Hein, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » Et tu lui blesseras le talon. Tout avait pourtant commencé de la meilleure des manières. Tout avait commencé de la meilleure des manières. Ézer était en tête au bout du deuxième tour. Et puis là, catastrophe, elle s'étale de tout son long. Tout avait commencé de la meilleure des façons qui soit. Dieu avait dit, après avoir tout créé, et voici... Tout était très bon. Tout était parfait. Tout était très bon. Et pourtant, voilà qu'au chapitre 3, nous découvrons avec horreur tout le mal. Et dans les chapitres qui suivent, le cortège du mal, avec toute son horreur. Les vols, les meurtres, les violences, les abus, les mensonges. Pour les jeunes qui étaient là hier et qui ont entendu le témoignage de Fernando, ils savent à quoi je fais référence. Le mal a engendré tellement de souffrances dans ce monde. Et puis, depuis Genèse 3, le mal est partout. Nous en sommes victimes, et nous en sommes aussi les auteurs, parfois très volontaires, parfois malgré nous. Combien parmi nous ont fait l'expérience de leur propre cœur méchant ? Quand on tombe, qu'on voit son propre état, qu'on voit qu'on est inexcusable, qu'on était averti et que malgré tout, on s'est étalé de tout son long. On a du mal à repartir. Nous voulons servir Dieu, et nous trouvons dans nos cœurs la loi du péché qui s'oppose constamment à Dieu. Alors, que s'est-il passé? Et ce matin, ce que j'aimerais vous montrer, qu'on regarde ensemble, c'est l'origine du mal. D'où vient le mal? L'agent du mal et ses complices. Et puis, pourquoi Dieu a-t-il permis le mal? Et donc, je vous propose de regarder tout d'abord d'où vient le mal. Dieu a créé le monde parfait. Et cette perfection, c'est le reflet de sa nature, de sa personne. Dieu est bon, et donc tout ce qu'il fait est bon et conforme à sa nature. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Si Dieu a créé le mal, alors Dieu serait à la fois bien et mal. Et si Dieu était bien et mal, il n'y aurait aucun espoir pour que finalement le bien triomphe, comme le promet les Écritures. Non, la source du mal est nécessairement en dehors de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer son Fils dans le monde pour détruire les œuvres du mal s'il est lui-même mal. Dans ce cas-là, il serait en train de s'auto-détruire. Et Jésus, quand on l'a accusé de cela, de chasser les démons par la puissance des démons, il a dit, mais une maison ne peut pas subsister si elle est divisée en elle-même et si elle se combat elle-même. Donc, vous comprenez, Dieu n'est pas l'auteur du mal. La Bible dit en Habacuc chapitre 1, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. » La confusion, le désordre sont le fruit du péché. 1 Jean chapitre 1, verset 5, « Dieu est lumière et il n'y a en lui aucune ténèbre. » Jacques chapitre 1, verset 13, « Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. » 1 Jean chapitre 2, verset 16, « Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Ésaïe chapitre 6, verset 3, les anges disent, « Saint, Saint, Saint est l'éternel Dieu des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Aucun mal en Dieu. On voit aussi dans la personne de Jésus-Christ. Aucun mal dans cette personne parfaite. En Dieu fait chair, il était saint, innocent, sans tache, séparé du péché. La source du mal est donc en dehors de Dieu. Dieu ne fait pas le mal, il n'aime pas le mal, il n'est pas responsable du mal. Mais alors qui? Ces créatures, nécessairement. Quand Dieu a créé les anges, et quand Dieu a créé les hommes, il leur a donné l'intelligence pour comprendre les choses, il leur a donné la raison pour traiter les informations et les choses, et puis il leur a donné aussi le choix pour déterminer leur comportement. Ils avaient ainsi le choix d'obéir ou de ne pas obéir à l'Éternel. Et cet arbre, planté au milieu du jardin, au fond, à quoi ça servait? Pourquoi est-ce que Dieu a planté ce jardin avec une interdiction? Finalement, c'était l'occasion pour l'homme de pouvoir dire à Dieu, « Je t'aime, je te fais confiance, je ne touche pas à cet arbre puisque tu ne me l'as pas donné maintenant. » S'il n'y avait pas cet arbre, il n'y avait aucun moyen pour l'homme de dire à Dieu, « Je t'aime, je veux te suivre, je veux croire en toi, je te fais confiance. » Alors, désobéir à Dieu, finalement, c'est cela, initier le mal. Dès l'instant où on désobéit à Dieu, on initie le mal. Le mal, ce n'est pas la présence de quelque chose, en fond. C'est plutôt l'absence de droiture, l'absence de vérité, l'absence de bonté, de sainteté, de justice. Comme les ténèbres, au fond, ne sont rien. Les ténèbres sont simplement l'absence de lumière. Le mal devient une réalité lorsque les créatures décident de désobéir. Finalement, le mal entre en action l'instant où on se soustrait à la présence de Dieu. Alors, voyons à présent l'agent du mal et ses complices. En Genèse, entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 3, il s'est nécessairement passé quelque chose. Tout était bien et soudain, le diable apparaît sous la forme d'un serpent pour pousser la race humaine à la rébellion. C'est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 9, et au chapitre 20, verset 2, que la Bible identifie le serpent ancien au diable. Le diable, ça signifie adversaire. Et puis il est appelé aussi Satan, c'est-à-dire l'accusateur. Satan s'est révolté contre Dieu et il a entraîné dans sa rébellion une multitude d'anges qui sont devenus des démons. Il y a plusieurs passages dans les Écritures qui évoquent cette rébellion. Si vous êtes intéressé par cela, vous pouvez chercher dans Jude 6, et puis en 2 Pierre 2, 4, puis en Ésaïe 14 et en Ézéchiel 28. Au fond, cet ange qui était extraordinaire, Lucifer, a voulu être comme Dieu en prenant la place de Dieu. Et il s'est transformé dans le pire ennemi de Dieu, en Satan. Il lui est devenu totalement étranger. Aussi, quand sous la forme du serpent, le diable vient devant Ève pour la séduire, qu'est-ce qu'il a en tête? Le même deal. Il lui dit, si tu manges, tu seras comme Dieu. Vous serez comme Dieu. Ce qui est complètement absurde. C'est un mensonge comme ça. Mais vous serez comme Dieu. Le serpent sait. Ils seront tout le contraire de Dieu. Ils deviendront instantanément ennemis de Dieu. Ils devront se cacher de Dieu. Chaque ange qui a suivi Satan dans sa rébellion a été créé individuellement. Les anges ne se reproduisent pas. Donc tous les démons ont choisi de s'opposer à Dieu. Pour eux, il n'y a pas de rédemption possible. Par contre, Adam et Ève, séduits par le diable, ont transmis à leur descendance, nous sommes leur descendance, cette nature de pécheur. Nous connaissons cette nature. Et au fond, nous savons ce poison du péché est en chacun de nous depuis Genèse chapitre 3. Satan, pour présenter le personnage, c'est le spécialiste de la séduction, le spécialiste du péché et de la tentation. Satan est dans sa nature un être spirituel. Il est dit dans le verset 1, chapitre 3, le serpent était le plus rusé. Et dans le sens, le mot hébreu, il est très fort. C'est pas simplement rusé, c'est aussi intelligent. Donc Satan est un être spirituel, subtil, puissant, rusé, intelligent. Il est le spécialiste du péché et de la tentation. Il s'oppose constamment à l'œuvre de Dieu. En 2 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit que le diable a aveuglé. Le travail du diable, c'est d'aveugler l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Vous posez la question, mais pourquoi est-ce que mes amis ne captent pas aussi facilement l'évangile? Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas croire? Parce que le diable aveugle leur intelligence. C'est son travail. Il cherche à masquer, à fausser, à détruire la pensée de Dieu quand vous cherchez à la révéler. Il fait cela depuis très longtemps. Il a une expérience phénoménale dans le domaine de la tentation. C'est le passionné de la tentation. Si le groupe Passion est passionné par la louange du Seigneur, lui, il est passionné par la tentation, par la chute. Il est entouré d'une multitude de démons qui travaillent pour lui à détruire les œuvres de Dieu. Il a une capacité étonnante à se faire passer pour Dieu. La Bible dit qu'il se déguise en ange de lumière. Il essaye de se faire passer pour Dieu. Dans le jardin, la femme n'était pas du tout effrayée. Il y a un serpent qui vient et qui lui parle. Ça n'éveille aucun soupçon. Elle se laisse séduire. Le diable est très fort. Il est capable d'utiliser même des personnes, elles-mêmes tentées, pour essayer de tenter et de détourner d'autres personnes. Vous vous souvenez de ce passage où Jésus dit à ses disciples, il faut que je monte à Jérusalem. Là, je vais être rejeté. Je vais être crucifié. trois jours plus tard, je ressusciterai. Et Pierre lui dit, écoute, Jésus, viens voir. Tu sais, c'est pas bien ce que tu dis là. Ça ne t'arrivera pas. Et à ce moment-là, Jésus dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées humaines. Pensées révoltées à l'égard de Dieu. Il faut que je marche vers Jérusalem et que je meure. Mais en plus de cette capacité extraordinaire, le diable a une connaissance intime du cœur déchu de l'homme. Et c'est là les complices. Le cœur de l'homme, il devient complice du diable. Pourquoi ? Parce qu'il a cette faculté à répondre, au fond, spontanément, aux tentations. Vous avez déjà remarqué ça dans votre propre cœur ? Notre propre chair, elle est paresseuse. Notre propre chair, elle est incrédule. Elle est orgueilleuse. Elle est lascive. Elle est malhonnête. Alors, pour Satan, lui, il a juste à choisir dans sa panoplie de tentations celle qui nous convient le mieux. Une tentation sur mesure. Il y avait un fruit pour Ève. C'est cela qui l'a tenté. Il y avait du vin pour Noé. Il s'est enivré. Il y avait une prostituée pour Judas, fils d'Israël. Et pour le jeune homme dépourvu de sens dans Proverbe 7. Il y avait des vêtements et de l'argent pour Géasi. Il y avait aussi 30 pièces d'argent pour Judas. Et pour toi, qu'a-t-il en réserve, le diable ? Il ne fait que nous pousser du côté où nous tombons. Nous qui sommes attirés et amorcés par notre propre convoitise, Jacques 1,14. Voilà, c'est l'agent du diable et ses complices que sont le monde et notre propre cœur tortueux. Voyons à présent, mais pourquoi Dieu a-t-il permis le mal ? C'est vrai. Peut-être vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi au moment où Dieu voit la révolte du diable entraînant une multitude d'anges dans cette rébellion, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas maté immédiatement cette rébellion ? Pourquoi il n'est pas intervenu immédiatement et a enfermé l'ange, tous ces anges ? Pourquoi ? On a de vraies raisons de se demander pourquoi. À la fin, dans la Bible, il va le faire. Il a toute la puissance pour le faire. Vous vous souvenez quand Job, dans le livre de Job, Satan vient de parcourir toute la terre, il se présente devant Dieu, et puis Dieu lui dit, mais tu as vu mon serviteur Job, comme ça, intègre, juste. Il dit, mais attends, laisse-moi m'occuper de ton Job, tu vas voir. Et Dieu lui dit, ok, tu t'occupes de lui, mais tu ne touches pas à son corps. Et le diable a tout pris, tous ses enfants, tous ses biens, tout son bétail, sa maison, tout pris. Et Dieu dit, tu ne vas pas toucher son corps. Après, le diable revient en disant, mais si tu me laisses toucher son corps, tu vas voir, il va te maudire en face. Ah, là, il ne l'a pas fait parce que je n'ai pas touché son corps, mais laisse-moi toucher. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, ok, tu peux toucher à son corps, mais tu ne lui ôtes pas la vie. Et donc, le diable est allé aussi loin qu'il pouvait dans la souffrance qu'il a infligée à Job, sans lui retirer la vie. Ça veut dire, le diable, même s'il est le prince de ce monde, il est soumis à Dieu. Vous vous souvenez dans les évangiles, Jésus rentre dans une synagogue, il y a un démon, il y a une personne possédée qui arrive, et Jésus ordonne au démon de quitter cet homme. les démons lui obéissent. Et toute la foule là, qui est autour, ils disent, mais qui c'est ce Jésus-là à qui même les démons obéissent? Quand dans la parole de Dieu, à la fin des évangiles, Jésus dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler, pour te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, il est en train de dire, le diable va te faire chuter. Mais moi, j'ai déjà prévu ça, et j'ai déjà prévu ton retour, et je sais ce que je vais faire après, avec toi. Ça veut dire, le Dieu a la possibilité de tout contrôler. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas écrasé cette révolte? Pourquoi Dieu a-t-il permis que les hommes tombent et provoquent tant de maux, tant de souffrances, tant de morts? Dieu savait que ces choses arriveraient. Il dit dans la première épître de Pierre que nous sommes sauvés non par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux d'un agneau sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde, Jésus-Christ. Vous voyez le truc? Dieu, avant de faire la fondation, de créer le monde, les hommes et tout ce qui s'y trouve, il avait déjà prévu d'envoyer Jésus-Christ pour racheter le monde, pour racheter les hommes. Moi, je trouve cette pensée-là extraordinaire. Je trouve cette vérité extrêmement rassurante. Pourquoi? Parce que ça me dit, rien n'échappe au contrôle bienveillant de notre Dieu. Dieu n'a pas créé le mal, il n'est pas l'auteur du mal, il ne fait jamais le mal, mais Dieu a décrété qu'il utiliserait le mal pour accomplir son plan éternel bienveillant. Dieu a permis la chute de Satan et la chute de l'homme, non pas parce qu'il était impuissant à contrer cette chute ou à l'arrêter, mais parce qu'il avait un but pour elle. Il ne pourra jamais être déclaré coupable du mal. Mais il ne sera jamais non plus pris au dépourvu par le mal. Il utilise le mal pour accomplir ses desseins. Ainsi, Dieu a permis au diable de tenter Ève et Adam, sachant qu'ils succomberaient. Et il l'a fait pour trois raisons. La première raison, Dieu voulait faire connaître sa colère contre le mal. Pourquoi est-ce que Dieu a permis le mal? Parce que Dieu voulait faire connaître sa colère contre le mal. Il y a un verset qui est puissant. C'est en Romains chapitre 9. On a fait allusion à ça tout à l'heure. Romains chapitre 9, verset 22. Écoutez ça. Et que dire? Si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition. Ici, Paul est en train d'expliquer pourquoi est-ce que Dieu a-t-il supporté le diable? Pourquoi est-ce qu'il a permis sa création? Pourquoi est-ce qu'il a permis la création de ces démons et de tout ce collège de souffrance? Pourquoi est-ce qu'il a créé des hommes qui ne veulent pas recevoir Jésus-Christ? Pourquoi? Pour montrer sa colère. Pour révéler sa colère. Mais vous dites, oh, ça c'est quand même fort, hein, Dieu est amour. Dieu est amour, c'est vrai. Dieu est amour. Et c'est parce que Dieu est amour qu'il doit montrer sa colère. Si vous aimez les enfants et que vous n'êtes pas en colère quand on fait des violences aux enfants, ne me dites pas que vous aimez les enfants, c'est pas possible. L'amour pour les enfants nécessite une colère contre la violence faite aux enfants. Lorsque Jésus entre dans le temple à Jérusalem et qu'il voit dans ce parvis des païens, il voit tous les vendeurs du temple. Ils sont en train de faire un commerce effroyable dans tout ça. Qu'est-ce que Jésus dit? Il entre dans le temple et il retourne les tables des vendeurs. Il chasse le bétail. Et il dit, vous avez fait une chose terrible. Vous avez transformé la maison de Dieu. Un temple pour toutes les nations, pour que tout le monde vienne adorer. Vous avez fait une caverne de voleurs et vous empêchez les païens, les non-juifs, de venir m'adorer dans le temple. Pourquoi est-ce qu'il est en colère? Pourquoi est-ce qu'il se met en colère? Parce que Dieu aime les non-juifs. Et il avait prévu un espace pour eux dans son temple, pour qu'ils viennent l'adorer. Parce qu'il était parce qu'il aimait les non-juifs, il s'est mis en colère. Il montrait son amour pour eux. La deuxième raison pour laquelle Dieu a permis le mal, c'est qu'il voulait faire connaître la grandeur de sa grâce. Dieu a permis qu'il y ait des pécheurs pour les sauver et pour montrer en eux la grandeur de sa grâce, de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde, qui font partie de sa nature, pour révéler la grandeur de sa miséricorde. Je me suis posé un jour cette question. Est-ce que Adam, dans le jardin d'Éden, avant la chute, connaissait Dieu mieux que moi? Vous imaginez la chose? Adam, il pouvait parler avec Dieu direct. Il avait vu toute la création. C'était le jardin d'Éden. Tout était parfait. Tout ce que nous, on voit qui fait notre admiration, ça a déjà été abîmé par le péché. Mais là, c'était encore parfait. Dieu, Adam, il voit ça, il peut parler à Dieu. Pourtant, je pense que d'une certaine manière, je connais Dieu mieux qu'Adam. Parce que je connais une facette de Dieu que Adam n'avait pas connue à ce moment-là. C'est sa grâce. C'est-à-dire son amour envers quelqu'un qui le rejette, qui est ennemi de lui. C'est ce que j'étais. Et il m'a fait connaître son amour. Il m'a fait connaître sa grâce. Il m'aime alors que je ne l'aimais pas. Il montre la grandeur de son amour envers ses ennemis qui le haïssent en mourant pour eux. En s'écriant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il montre son pardon et son salut. À la croix, Dieu montre à la fois sa colère contre le péché et son amour infini pour les pécheurs que nous sommes, en donnant son Fils. Si vous voulez savoir comment Dieu vous aime, alors regardez Jésus-Christ à la croix. C'est pour vous qu'il meurt. Enfin, pourquoi est-ce que Dieu a permis le mal? Parce que Dieu voulait détruire le mal. Ah, ça, c'est une vérité aussi merveilleuse. Dans notre texte, il dit « Je mettrai l'inimitié entre ta postérité et sa postérité ». Qui est la postérité du diable? On pourrait imaginer tous les complices que l'on a vus tout à l'heure. Un jour, Jésus est en train de discuter. Il vient de révéler sa puissance, sa divinité. Et là, il y a des hommes qui ne veulent pas croire en lui. Et ils sont en train de réfléchir, en train d'essayer de l'accuser à tort. Ils cherchent des fausses accusations, des mensonges qu'ils peuvent faire valoir contre Jésus. Et puis ils ont en tête de le faire mourir. Et Jésus se tourne vers eux et leur dit, vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir la volonté de votre père. Votre père, il est menteur depuis le commencement et il fait directement référence à ce passage en Genèse. Et puis, il est meurtrier depuis le début. Ça veut dire que quand Satan est venu pour séduire Ève, Il n'avait pas l'intention de juste s'en faire une copie. Il voulait la faire mourir. Il voulait la tuer et tuer Adam et corrompre toute la race humaine. Voilà la postérité de Satan, tous ceux qui refusent de croire en Jésus-Christ. Et puis, il y a la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est bizarre, parce que nous, on sait tous qu'on est né d'une mère. Mais quand la Bible parle des généalogies, elle cite que les pères. Fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, et c'est que les pères. Sauf une exception. Pour Jésus, fils de Marie. Parce que Jésus, il est né de Marie et de Dieu. Et c'est le seul qui soit né uniquement d'une femme. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce qui s'est produit ici. Jésus est né d'une femme. Le diable dit ici, Dieu dit au diable qu'il lui blessera, il blessera le talon, puisqu'il le fera souffrir Christ, mais que Christ lui écrasera la tête, le détruira. Et il l'a fait où ? À la croix. C'est là où la victoire a été remportée. Le diable a généré beaucoup de souffrance à Christ, mais Christ a vaincu le diable. Il a déjoué pour toujours ses plans. En Colossiens, chapitre 2, verset 14, il dit que l'acte qui nous condamnait a été cloué sur le bois de Christ. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'arme de Satan pour nous faire mourir, ce sont des accusations. Mais ce ne sont pas des accusations fausses. Il n'a pas besoin de chercher des fausses accusations. Il pointe juste les accusations valables sur nos propres vies, sur nos propres égarements. Et ça, il le fait valoir, il dit, « Seigneur, Dieu, tu as dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il a fait ça, il a péché, il doit mourir. » Et Dieu dit, tout cet acte, toute cette liste qui m'accusait a été pris et a été planté comme sujet de la condamnation de Jésus-Christ à ma place. Ces actes qui méritaient la mort, Christ les a portés et c'est pour ça qu'il a souffert la mort pour moi. De ce fait, le diable n'a plus de puissance pour entraîner un croyant dans la damnation. Aujourd'hui, le diable, il est vaincu. Oh, vous dites, quand même, j'ai l'impression qu'il bouge quand même encore pas mal. C'est vrai. Vous savez, aux échecs, il faut anticiper les coups. Et il y a un moment où un joueur place une pièce, déplace une pièce, et puis il dit échec. Il sait déjà tous les coups que l'autre peut faire. Et pendant un certain temps, il va pouvoir bouger encore ses pièces. Il va pouvoir vous prendre des pièces. Mais vous savez qu'à la fin, de toute manière, il sera échec et mat. Il est mort. La partie, vous savez, elle est déjà gagnée. C'est déjà gagné. Il peut faire tout un tas de petites choses, de petits déplacements, mais c'est fini pour lui. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le diable. Le diable peut encore vous faire trébucher, vous faire tomber, mais jamais plus, il ne pourra vous faire damner avec lui. Il a été vaincu par la croix de Christ. Rien ne peut échapper le royaume de Dieu, empêcher le royaume de Dieu de s'installer. À la fin de la Bible, vous prenez l'autre couverture, vous tournez quelques pages en arrière, et là vous avez la fin de l'Apocalypse. Et dans la fin de l'Apocalypse, Jean dit, puis je voyais la nouvelle Jérusalem. Le diable a été jeté avec tous les démons et tous ceux qui ne croient pas en Christ. Ils ont été tous jetés dans les temples de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, et ils ne pourront plus jamais en sortir. Tous ceux qui se sont révoltés ont fini là. Et puis ensuite, il se tourne et puis il dit, je vois de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et puis Dieu est là, au milieu de son peuple racheté. Et il dit, il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Terminé. Tout a été vaincu. Et vous savez pourquoi l'histoire, elle est déjà écrite? Parce que Jésus-Christ a vaincu. C'est fait. La victoire, elle a déjà été obtenue. Personne ne pourra nous la reprendre. Ainsi, Satan et le mal servent à la fin à quoi faire? Simplement à magnifier la puissance et la sagesse et l'amour et la grâce et la miséricorde, et la patience, et la colère de notre Dieu. Nous ne connaîtrions pas Dieu dans la plénitude de sa gloire s'il n'avait pas permis le mal et vaincu Satan de la façon dont il l'a fait. Alors, quelques implications de tout ceci pour nous. Tout d'abord, il y a quatre choses à faire avec le mal. Puisque nous avons un adversaire, puisque nous avons un ennemi, la première chose c'est attendez-vous au mal. Vous pouvez vous attendre, vous pouvez compter dessus. Ne soyez pas surpris par le mal, il arrivera. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est repentez-vous du mal. Priez pour échapper au mal. Le Seigneur nous a enseigné: pardonne-nous nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et puis, rendez grâce pour l'effet de raffinage qu'opère le mal contre vous. Ça, c'est certainement une des choses les plus difficiles à faire. Le mal, comme il est permis par Dieu, il va concourir malgré tout à notre bien. Et Dieu permet ces choses-là dans nos vies, des souffrances, parce qu'il est en train de faire une œuvre merveilleuse, c'est celle de notre transformation à la ressemblance de Jésus-Christ. Et puis enfin, haïssez le mal, ayez le mal en horreur, condamnez le mal, résistez au mal, surmontez le mal par le bien. Et puis il y a quatre choses à ne pas oublier. La première, c'est que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ses desseins à lui, ils sont toujours bienveillants. Quand quelque chose de mal arrive, n'accusez jamais Dieu. Il n'est pas dans le box des accusés. Ce n'est pas possible. Il n'y a jamais rien comme ça dans sa vie. Et si vous faites ça, vous faites fausse route et vous ne trouverez pas la consolation pour vos cœurs. Et puis, Dieu contrôle parfaitement le mal. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté pour moi en Jésus-Christ. Il reste souverain. Il reste... il va utiliser le mal pour son dessein. Dieu contrôle encore toute chose. Et puis, Dieu détruira le mal. N'oubliez jamais ça. La fin sera glorieuse. Le triomphe est certain. Et puis, enfin, Dieu a réglé le problème du mal en donnant son Fils Jésus. Et ça signifie une chose très importante pour nous. C'est que le Seigneur n'est pas indifférent à notre souffrance. Il y a John Stott, un auteur anglais, qui a écrit ça. Il dit qu'il s'est rendu dans un temple bouddhiste, et puis là, il a vu la statue de Bouddha, celle que tout le monde connaît, un bonhomme assez bien portant, les jambes comme ça, les bras comme ça, avec la banane, les yeux fermés, tout bien pour lui, zen, complètement indifférent à la souffrance. Puis de l'autre côté, vous avez Jésus-Christ, crucifié, couronné d'épines, les mains clouées, les pieds cloués, le côté percé, souffrant la mort que tout le monde reconnaît pour être la plus dure des morts. Une soif intense, une asphyxie progressive. Vers quel Dieu vous allez vous tourner quand vous êtes dans la souffrance? Celui qui ne connaît pas la souffrance? Celui qui semble indifférent à la souffrance? Ou celui qui a souffert et qui a accepté la souffrance par amour pour nous? Oh, ne vous trompez pas. seul Jésus-Christ peut répondre à cette question du mal et de la souffrance. Pourquoi cet athlète qui a chuté a tout de même fini et remporté la course? Je termine avec ça. Pourquoi c'est elle qui a remporté la course? Pour quelle raison? Simplement parce qu'elle s'est relevée. Elle s'est relevée. Pas tout à fait ça. Elle a fini la course et puis elle a remporté la course parce qu'elle s'est relevée immédiatement, rapidement. C'est pour ça qu'elle a remporté. C'est pour ça qu'elle a gagné. Et là, il y a une vérité essentielle pour nous à retenir. Nous allons tomber durant notre course. Nous avons un ennemi redoutable qui est le spécialiste des chutes. Vous pouvez vous relever et repartir parce que Jésus-Christ a payé pour vos fautes et que son plan parfait s'accomplit malgré vos chutes. En portant vos regards sur lui, vous pouvez voir l'horreur qu'il a du péché et aussi la grandeur de son amour pour vous. Et cette vision, elle doit vous pousser à désirer une vie sainte qui glorifie Dieu. Alors, ne perdez pas votre vie en demeurant dans le péché ou en vous vautrant dans la culpabilité ou en pleurant sur votre sort. Mais portez vos regards sur Jésus-Christ crucifié qui a pris votre colère et qui vous a démontré son amour. Regardez à Christ qui a vaincu le diable, le péché et la mort, et partez annoncer ce glorieux message que le mal a été vaincu. La victoire nous est acquise, et cela pour toujours, par Jésus-Christ.